Si vous pouvez reprendre place, nous allons reprendre maintenant avec la deuxième partie de cet hommage qui est consacré essentiellement à l'ouverture que Jacques a faite, a contribué pour l'action du Collège de France dans différents secteurs. Et nous allons écouter tout d'abord Philippe Lazard, qui est directeur général honoraire de l'INSERM et qui a créé, lorsqu'il est arrivé à la tête de l'INSERM, le Collège de direction scientifique de l'INSERM, auquel Jacques Glowinski a participé. Merci, Philippe.
Monsieur l'administrateur, chers amis, je remercie chaleureusement le Collège de France de m'avoir invité à prendre part à son hommage à Jacques Glowinski. J'y suis particulièrement sensible et je vous en suis vraiment reconnaissant. En juillet 1981, au moment où je venais d'être nommé rapporteur général du colloque national Recherche et Technologie, Jacques avait pris l'initiative de venir me voir rue Cassette, où j'officiais, pour me faire part de son inquiétude de ce qui allait se passer en matière de recherche avec le nouveau pouvoir. La suite devait démontrer que je l'avais sans doute un peu rassuré, puisque lorsque quelques mois plus tard, en février 1982, j'étais nommé directeur général de l'INSERM et que Jacques a aussitôt accepté de faire partie du collège de direction scientifique de l'Institut, le CODIS, l'instance que j'ai créée dès ma nomination. Quelques mots de moi d'abord. Entré en 1960 comme chargé de recherche en statistique médicale à l'Institut national d'hygiène, nommé ensuite maître puis directeur de recherche en épidémiologie au sein de l'institution succédant à l'INH en 1964, l'INSERM, je ne m'attendais strictement pas à en prendre la direction générale à l'issue du colloque. Et pour dire la vérité, bien des éminents tenants du pouvoir médical de l'époque non plus. Un polytechnicien, pas même biologiste, brrr, qu'allait-il nous arriver ? La cabale parut organisée pour éviter ma nomination ayant échoué, je me suis retrouvé rue de Tolbiac face à mes responsabilités. Et je suis infiniment reconnaissant de m'avoir si généreusement fait confiance aux personnalités scientifiques qui ont alors accepté de m'apporter personnellement leur aide, au premier rang desquels, bien sûr, Jacques. Quelle joie et quelle émotion de saluer ceux d'entre eux qui aujourd'hui sont parmi nous pour témoigner de ces moments exceptionnels que nous avons vécus ensemble, vécus avec Jacques. Et avec ceux qui sont présents, je pense bien sûr à tous les autres, dont plusieurs, hélas, sont aujourd'hui déjà disparus. Deux mots encore avant de vous parler du rôle du CODIS. J'avais plutôt, je crois, assez bonne réputation en tant que chercheur. J'ai par exemple été co-signateur avec mes amis Joël et André Bouet d'un des articles les plus cités de la littérature médicale mondiale sur les avortements spontanés précoces, la première pathologie humaine, ce qui ne m'empêchait pas pour autant d'avoir pleinement conscience des limites de mon savoir scientifique. Et j'avais aussi un passé de militant syndical que je me devais de respecter. Incidemment, je me souviens de la surprise du responsable de la sécurité du 101 rue de Tolbiac lorsqu'il m'a vu arriver, non pas pour envahir le siège de l'INSERM, mais pour en prendre la direction générale. Je tenais donc à diriger l'Institut en mettant scrupuleusement en œuvre ses règles statutaires de fonctionnement et en particulier le rôle des instances d'évaluation, les commissions spécialisées et le conseil scientifique, ce qui impliquait de suivre presque toujours leurs recommandations. Presque toujours, mais pas toujours, car il s'agit bien d'instances chargées de conseiller et non de décider. Et pour décider, en prenant parfois, si nécessaire, quelques distances vis-à-vis de ces conseils, j'avais fondamentalement besoin d'élargir le champ de mes propres compétences. Mes prédécesseurs avaient bien sûr, domaine par domaine, des conseillers scientifiques qu'ils conseillaient individuellement. J'ai rompu délibérément avec cette pratique en créant, et ce n'est pas une surprise auprès de vous, chers collègues, que j'ai besoin, je n'ai pas besoin dans ces murs de faire l'éloge de ce type de structure dont parlait à tellement juste titre Pierre Collol il y a un instant, en créant donc un authentique collège de direction scientifique. Nous nous réunissions tous les mercredis après-midi, oui, tous les mercredis après-midi pendant plusieurs heures, en présence de l'admirable et très regretté Françoise Sevin et du merveilleux secrétaire général de l'Institut, Michel Daudet. Nous passions collégialement en revue toutes les décisions à prendre, absolument toutes, avec une intense attention et une totale liberté d'expression. C'est très joli, mais ce n'est pas moi. Et c'est bien sûr au sein de ce groupe, de fortes personnalités, toutes acceptant les règles d'extrême franchise et d'écoute mutuelle, que Jacques s'imposait en jouant ce jeu avec passion, avec haute compétence évidemment, mais aussi avec une profonde, très profonde humanité. Trois éminentes qualités, tiens, trois comme par hasard, trois comme les discours que presque toujours en trois points, dont presque toujours en trois points il nous régalait dans ses interventions. Il était en fait loin d'être en phase avec tout ce que je proposais, mais c'était bien là la règle du jeu du CODIS et qui faisait sa force que de débattre avec vivacité de tout ce qui était à l'ordre du jour. Jacques, par exemple, avait émis quelques doutes sur la fameuse règle des 12 ans que j'avais à l'époque introduite pour que la qualité de directeur d'une unité de recherche cesse d'être un titre inamovible et devienne une fonction périodiquement remise en question. Ce qui ne l'a pas empêché de reconnaître son efficacité et de diriger lui-même, sauf erreur de ma part, successivement, trois unités de recherche. Tiens, trois, justement. Quand j'évoque la mémoire de Jacques, sa présence si chaleureuse, tout se passe pour moi comme s'il était là, aujourd'hui, à nos côtés, avec son inoubliable sourire, sa gentillesse, sa capacité exceptionnelle d'empathie. Jacques, mon ami de si longue date, bien trop tôt, et si durement disparu. En fait, nous sommes sans doute rencontrés, lui et moi, bien avant la rue Cassette, à l'occasion du mariage de ma belle-sœur en 1949. Mais nous avions l'un et l'autre à l'époque 13 ans et nous l'avions quelque peu oublié. Il faut dès lors que je vous en dise quelques mots de plus. Les parents de Jacques connaissaient en effet très bien ceux de mon beau-frère. En fait, la relation familiale datait déjà de la génération précédente. Ses parents auraient pu connaître les miens. Ils étaient fourreurs. Ceux de mon beau-frère étaient tailleurs, nés tous ailleurs que dans ce pays, juifs, polonais, émigrés. Vous connaissez peut-être l'histoire qu'on raconte dans les familles juives issues de l'immigration. Elle vaudrait tout autant pour toute autre culture. Quelle est au sein de ces familles la différence entre un tailleur et un docteur? Et la réponse est une génération. Aujourd'hui, plus que jamais aujourd'hui, il faut rappeler ce qu'est vraiment la France, cette terre d'accueil qui a permis, du fait de ses éminentes qualités, au fils d'un fourreur juif polonais émigré, de devenir un Jacques Glowinski, professeur au Collège de France, puis administrateur du Collège de France. Jacques Glowinski, cela a été dit à plusieurs reprises ce matin, était un mensch, comme on le dit en yiddish, des hommes absolument exceptionnels. À tout jamais pour nous, le Glo, plus simplement, que nous avons eu le bonheur de connaître, continuera à vivre en nous et par nous, tant qu'il nous restera à nous-mêmes un souffle de vie. Merci.